on est obligé, il me semble, d'en passer à un moment ou à un autre par la question de la place du corps dans l'organisation du travail. Ce qui n'a pas toujours été nécessairement le cas, ou disons pas de cette façon-là. On sait, maintenant, on sait avec le recul des travaux que le corps est à la fois un enjeu de pouvoir, un enjeu de domination, puisque, en fait, j'en donne l'exemple là, je suis obligé de m'engager dans une sorte de corps à corps plus ou moins médié avec vous pour pouvoir faire mon travail. Mener mon activité, disons. Sans le corps, on ne peut pas accumuler de quoi que ce soit, ni de, notamment de capitaux, que ce soit des capitaux économiques, culturels, sociaux, pour soi. Et non plus, on ne peut pas être exploité par les autres, puisque si on n'a pas son corps pour se faire exploiter, ça repose sur rien du tout. Donc le corps est à la fois, on va dire, un outil pour nous, puisqu'on l'utilise pour faire des choses. On n'a pas le choix, en fait. Mais il est également un instrument pour autrui, puisqu'il peut être manipulé plus ou moins fortement pour le tirer dans un sens ou dans un autre. Alors, oui. Du coup, en fait, on est, dès notre plus jeune âge, on est incité, on va dire, je mets des guillemets, on est incité par des institutions, par les représentants de ces institutions, à mener un travail physique et psychique intense, de manière à incorporer un certain nombre de dispositions qui vont nous permettre, dans certaines configurations, de faire des choses ou de ne pas faire les choses. Pour prendre juste un exemple qui va sans doute vous parler à tous, être assis sur une chaise et pour participer à un colloque, que ce soit vous dans votre position d'auditeur, d'auditrice attentif, j'en suis sûr, ou nous qui sommes face à vous pour mener une activité doctorale, entre guillemets. Certes, nous avons besoin de capitaux économiques, puisqu'il va falloir avoir une superbe salle équipée qui puisse permettre de passer un super dessin animé tout à l'heure et de pouvoir parler dans un micro sans s'égosiller et perdre sa voix. Certes, il faut un certain nombre de capitaux culturels, c'est-à-dire que si je n'avais pas une thèse de doctorat et puis quelques années d'expérience de la recherche, on ne m'aurait sans doute pas invité ici à venir. Mais il faut également peut-être, alors d'abord et avant tout, mais c'est surtout d'un point de vue chronologique, on pourrait dire, non pas un ordre d'importance, il faut être disposé, il faut être docile, on pourrait dire, une certaine docilité académique à accepter pendant toute la journée, à être assis dans une chaise, c'est pas très confortable, voire même c'est carrément inconfortable, c'est plus ou moins intéressant, c'est plus ou moins fatigant. Mais il faut faire preuve d'une certaine docilité pour accepter de se plier à l'exercice. Et cette docilité-là, je pourrais poser la question, qui s'est posé la question en arrivant au colloque, du simple fait qu'il allait devoir s'asseoir sur une chaise pour assister au colloque ou participer au colloque. Je pense qu'à part moi qui me suis posé la question, puisque voilà, je pense que personne n'a réfléchi en ces termes-là de manière consciente. Voilà, on est arrivé, on a discuté, on a papoté, on a posé nos fesses sur les chaises et on s'est mis à écouter et à prendre notre stylo et à prendre des notes. C'est quelque chose qui est pour nous, on pourrait dire, entre guillemets, une seconde nature. Hein, c'est nos dispositions de chercheurs et chercheuses, notre habitus académique qui nous fait agir de manière plus ou moins consciente ou inconsciente selon les cas. Là, en l'occurrence, à mon avis, très inconsciente, puisque si je n'avais pas lu le bouquin de Gebauer et Wolf sur jeux, rituels et je ne me rappelle plus du dernier terme, je ne me serais même pas posé la question. Je les cite, puisque c'est assez rigolo. Être assis exige des efforts, amoindrit la respiration, solidifie la musculature du squelette et modifie les rapports des sens entre eux. Cette posture diminue la capacité de mouvement du corps et freine sa capacité d'agression physique. Elle limite l'immédiateté de l'expression des émotions et des affects. Autant dire que vous avez fait un énorme travail, rien qu'en vous asseyant aujourd'hui. Or, ce travail, certes, vous l'avez fait vous, mais il a été fait par des générations et des générations avant vous, avant nous. Et donc, Gebauer et Wolf indiquent que c'est en fait, y compris le fruit d'un rapport d'un changement dans les rapports de domination, dans les rapports de force entre des groupes sociaux, pour ne pas les nommer la noblesse et la bourgeoisie, qui a contribué à l'utilisation familière de la chaise comme instrument de mobilier, etc. Donc des choses, vous voyez, qu'on est à des années-lumière de se poser ce genre de questions quand on vient s'asseoir sur une chaise pour participer à un colloque. Voilà, tout ça pour dire que donc, nous sommes dociles, que cette docilité, elle remonte à très très loin. Merci Elias. Notre esprit, alors je fais la distinction, ça va peut-être paraître un peu schématique à certains. Notre corps et notre esprit ont été préparés à faire ce travail de docilité, notamment via l'expérience prolongée et répétée de différents moments rituels. L'école, dans nos sociétés occidentales modernes, étant l'un de ces moments rituels très importants pour ce type d'exercice, sachant que ce n'est pas le seul, puisque, en fait, en réfléchissant après, je me suis dit que, les parents, avec leurs enfants, ils mettent déjà les enfants dans des chaises plus hautes. Il y a donc tout un travail pour faire des chaises correctes bébés, que ça n'a pas toujours existé. Donc voilà, je pense qu'on pourrait remonter à travailler sur ces questions-là aussi, à savoir comment ça modifie le rapport à l'enfant pour lui donner à manger, pour jouer avec lui, comment l'enfance, ça modifie aussi sa perception de l'adulte, être plus ou moins au même niveau ou pas. Voilà. Donc, tous ces moments ritualisés font qu'on incorpore des dispositions, et ce que Bourdieu appelait la seconde nature de l'habitus, en fait, c'est bien ça, ce sont des dispositions qu'on ne questionne même plus, en fait. Or, c'est la fin de mon introduction, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, moi je voudrais parler du jeu, en fait, plus que peut-être du corps, du travail et du genre, mais en fait, pas tout à fait, mais je pense que je m'inscris à la suite de beaucoup de chercheurs, hein. Je pense que le jeu forme un des médias importants par lequel le travail d'incorporation et d'intériorisation des dispositions peut se dérouler. Alors, pour ceux qui connaissent les travaux sur le jeu, ça paraîtra sans doute quelque chose de très banal. À nouveau, là, je dois faire preuve d'une totale modestie. La question du jeu en général et en particulier dans le travail, c'est une question que j'ai croisée il n'y a que quelques années. Donc c'est vraiment un nouveau champ pour moi qui s'ouvre. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est également un travail... c'est la première fois que je réfléchissais à ces questions-là sérieusement en lisant de la littérature, etc. Donc je vous demanderai de faire preuve de docilité académique, mais également d'une certaine forme de mansuétude, bienveillance, voilà. Et donc, à travers les jeux, donc pour quand même raccrocher, bien sûr, à la question qui nous occupe aujourd'hui, je pense que les jeux forment un médium qui contribue puissamment, bien que discrètement, au mode d'assignation sexuelle et sociale, caractéristique de la division du travail productif et reproductif d'une configuration sociopolitique donnée. Pour le dire vite, les jeux apprennent aux petits garçons à être des garçons et à se comporter comme tels, y compris après à se comporter comme des hommes. Après, on pourra discuter de ce que ça veut dire se comporter comme des hommes, mais voilà. Et aux petites filles d'apprendre à se comporter comme des petites filles, à penser comme des petites filles, et potentiellement à se comporter et à penser comme des futures femmes qui seront amenées à évoluer dans les activités domestiques, l'univers domestique. Alors, pour comprendre pourquoi je travaille cette question aujourd'hui, il faut que je revienne un petit peu en arrière. La question du jeu m'est apparue de manière... Alors, du jeu dans le travail, pour le coup, m'est apparue de manière progressive à partir de mon travail sur les éboueurs, d'abord. Parce que voilà, les éboueurs avaient avaient quelques pratiques ludiques pendant le travail qui, semblait-il, leur permettaient de réaliser les activités jour après jour. voilà, entre eux, les uns contre les autres, etc., etc. Donc ça, c'est des observations que j'ai pu faire, mais qui recoupaient déjà ce que la littérature sur le travail ouvrier, notamment, avait montré depuis très longtemps. Donc rien de très nouveau sous le soleil, si ce n'est peut-être que, bon, bah, comme on ne connaissait pas les jeux des éboueurs, voilà, j'ai montré que, y compris les éboueurs jouaient. Mais... en revanche, j'ai recroisé une seconde fois la question du jeu dans le travail d'une manière un petit peu plus originale, cette fois, à l'occasion d'un travail de recherche que j'ai mené avec Douard Trollo, qui est donc associé également, enfin qui à l'époque était associé au laboratoire de psychodynamique du travail. Douard menait une thèse sur les centres d'appel et on a discuté. Il rencontrait de grosses difficultés pour trouver un accès au terrain pour sa thèse et je me suis proposé d'essayer de lui filer un coup de main pour l'aider à avoir accès à un terrain. En mobilisant un certain nombre de réseaux militants, professionnels, j'ai réussi à avoir accès à un terrain qui jusqu'alors se dérobait. Et on est tombé sur un truc très très particulier, tellement particulier qu'en fait, pour le moment, en dépit de mes efforts, y compris dans les réseaux militants et dans d'autres réseaux, j'ai pas réussi à retrouver un équivalent. Et alors, si vous en connaissez, il faudra me le dire, mais y compris dans la littérature, on n'a pas repéré les jeux dont il est question. J'en parlerai à la fin. Vous serez obligé, en fait, vous serez obligé de rester jusqu'au bout pour savoir. C'est un peu sadique quand même comme truc, mais bon, enfin, non, il y a une raison. Donc voilà, l'intérêt pour le jeu, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à ce que maintenant de plus en plus de chercheurs appellent les processus de gamification du travail. Bon, alors, j'espère qu'il n'y a pas de spécialiste parce que sinon je vais me faire étrier. Mais il y a des discussions à savoir. Derrière sa question. Je fais le pari qu'il n'y a pas de spécialiste des questions du jeu dans le travail, pour vous donner juste quelques repères sur la question du jeu, de manière à ce que vous compreniez un peu ce que je vais raconter. Je me base sur deux chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur le jeu en général, qui sont Johan Huizinga, donc qui était un chercheur, un historien, si je ne dis pas de bêtises, hollandais, qui a travaillé sur le jeu dans les années 30, et Roger Caillois, qui était, alors lui, je ne sais pas trop si on doit dire sociologue, historien, parce que ce n'est pas très clair visiblement, je veux dire sociologue, qui dans les années 50-60 a travaillé également sur le jeu, mais avec une démarche en plus anthropologique. Voilà. Si je me base sur notamment Caillois, le jeu, un jeu, prend, disons, six caractéristiques principales. D'abord, c'est une activité qui est libre. Donc on rentre dans un jeu de manière volontaire, on joue tout d'un coup, tiens, voilà, ça se voit beaucoup dans les cours de récré, notamment. Tiens, est-ce qu'aujourd'hui on va jouer aux cow-boys et aux indiens, je sais pas quoi, à la marelle voilà. C'est une activité qui est séparée dans l'espace et dans le temps. Donc c'est un moment et un endroit. Normalement, c'est un moment et un endroit précis qui est, on pourrait dire, dans un rapport second par rapport à la vie réelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, bah voilà, tiens, moi je suis aujourd'hui un cow-boy, toi t'es un indien, et puis on va jouer au cow-boy et aux indiens. Et quand la fin de la récré sonne, clac, on va retourner à l'école et cow-boy indien, c'est fini, on repart dans la vraie vie. C'est une activité qui est incertaine, il n'y a pas d'issue qui est sûre à 100%, sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à faire un jeu, parce que ça ne permettrait pas de développer un certain nombre de pratiques créatives, etc. C'est une activité qui est aussi improductive, il n'y a pas de création de richesse en tant que telle. Au mieux, il y a un déplacement dans la richesse. Par exemple, quand des joueurs de poker arrivent, ils jouent au poker, ils ont chacun de l'argent, et l'argent va circuler entre eux, mais il n'y a pas de création de richesse, il y a juste circulation de la propriété des jetons. Le jeu est une activité qui est réglée. Généralement, il y a des règles du jeu. Alors après, c'est pareil, il faut discuter. Il y a des jeux qui sont plus ou moins réglés fortement. Il y a moins de règles dans, par exemple, un jeu de... Quand on joue à être quelqu'un ou à être quelque chose, qu'on se raconte une histoire, qu'on... Voilà, quand on joue par exemple au football ou même à la marelle. Hein, il y a un cadre très précis, il y a des règles, etc. Et c'est une activité qui est fictive. Les joueurs savent qu'ils ne sont pas dans la vie réelle. Ils savent que c'est pour de faux, c'est pour faire semblant. C'est ce que Batson disait, c'est faire comme si, mais un comme si, S-I. Alors je précise parce que c'est important la précision. C'est donc, on fait semblant. Logiquement, jeu et travail, du coup, ça s'oppose, quasiment terme à terme. Pas quasiment, mais pour beaucoup de termes, en fait, ça a du mal à cadrer. Sauf que ce que j'ai dit au départ, c'est que les éboueurs jouent, les ouvriers jouent. Donc l'opposition que Huizinga, notamment, avait quand même contribué à poser, une opposition entre jeu et travail, elle tient pas. Il y a effectivement du jeu, y compris jusque dans le travail. Et on pourrait même renverser le truc en disant que, bien évidemment, dans le jeu, à certains moments, il y a du travail. Mais bon, là encore, il faudrait discuter de ce qu'on entend. Je pense que je vais exploser le temps, en fait. Alors, pourquoi je dis tout ça? En fait, je repars d'une réflexion que faisait Elias, une critique, notamment qu'il adressait aux sociologues à son époque. Je pense que ça a un petit peu changé maintenant, mais à son époque, en tout cas, il adressait la critique, qui était de dire les sociologues ont quand même tendance, beaucoup, quand ils travaillent, à considérer les individus qu'ils prennent comme objet d'étude, etc., comme des adultes finis, comme des adultes advenus, en oubliant quand même largement qu'avant d'être un adulte advenu, on a été des enfants advenir. Et donc, pour lui, il fallait remettre quand même un petit peu de processus de vieillissement, d'apprentissage, peut-être, dans d'autres cas, de maturation, enfin, etc., etc. Il voulait pointer le fait important, selon lui, que dans les expériences, dans les expériences qu'on peut éprouver, qu'on peut traverser, enfin, auxquelles on se confronte, qui nous construisent, qu'on contribue à construire dans une configuration présente, les choses qui nous sont arrivées ou qu'on a contribué à faire arriver dans le passé continuent à jouer. Et en fait, bah voilà, le propos d'aujourd'hui, c'est de montrer que les jeux, c'est une bonne illustration, en fait, de ça. Dernière précision sur le jeu, peut-être pour que vous, ouais, pour éviter les. En français, on a le mot jeu et on a le mot jouer. On a à chaque fois un terme. En anglais, ils ont un avantage sur nous, c'est que le substantif, en fait, il est double chez eux. Ils ont « game » et ils ont « play ». Par contre, ils ont un seul verbe, « play »,« to play ». Et il y a une historienne qui s'appelle Robert Amayon qui, en utilisant cette duplicité du terme en anglais, fait une distinction qui est, à mon avis, utile pour comprendre ce qui se passe dans le travail. En fait, elle range du côté du « play ». Donc du jeu, alors du play, ouais. Tout ce qui renvoie aux formes, on va dire, un peu plus représentationnelles, c'est-à-dire jouer à la, voilà ce que je disais tout à l'heure, jouer à la au cow-boy, jouer à la à la princesse, enfin à toutes ces choses-là. Et elle oppose au game tout ce qui renvoie plutôt à la compétition. Ce que Kaiwa appelait les pratiques agonales, en fait, du jeu. Toutes les formes compétitives. Donc j'ai parlé du poker tout à l'heure, ça peut très bien être une illustration d'une forme compétitive. Le sport est bien évidemment la forme qui peut venir tout de suite de manière, enfin la plus évidente, hein, les enfants jouent beaucoup, les garçons notamment, bon, je vais revenir, mais jouent beaucoup au football, au baseball, enfin tout ce genre de choses. Donc c'est important à avoir, puisque quand on parle de gamification au travail, il faudra avoir à l'esprit qu'on est sur une sorte de colonisation en fait des pratiques de jeu dans le travail par le principe agonal, par le principe compétitif, au détriment des principes plus de l'ordre de la représentation, de la voilà, ce que Kawa appelait la mimicrie en fait, qui est basée plus sur la fiction, la créativité, etc. Et donc, puisque vous avez été particulièrement attentif, je vais vous passer un extrait de dessin animé qui, à mon sens, a le mérite, en 5 minutes, d'illustrer ce dont il s'agit pour la suite de mon propos. Sachant que j'aurais pu passer d'autres parties un peu plus trash au niveau des rapports sociaux de sexe, mais je me suis dit que c'était peut-être pas la peine, parce qu'il aurait fallu, il faudrait en discuter. Donc c'est déjà suffisamment costaud, je pense.
On va transformer cette maison en capsule.
Oui, mais on va y aller comment? On pourrait prendre le nuage supersonique?
Ce sera encore plus simple, en bateau.
5 minutes, ça dure.
Allez! Vous abstenir d'éternuer sur ce frêle esquif.
Attendu, maître.
Quand elle éternue, elle se transforme en une combattante dans le cadre de leur ultra dangereuse.
Était en fait une jeune fille assez étrange.
Ah ouais, oui.
Chaque fois qu'elle éternuait, elle devenait soit d'une incroyable gentillesse, soit d'une extrême violence.
Ah, je...
Sa présence avait son utilité, ça les libérait des tâches ménagères et ils pouvaient se consacrer totalement à l'instruction qu'avait accepté de leur prodiguer leur vieux maître bien-aimé, Tortue Géniale. Ils avaient décidé de quitter leur petite île pour aller s'installer dans un endroit plus vaste qui serait nettement mieux adapté aux besoins d'un entraînement très poussé.
Alors... En fait, si on prenait le temps d'analyser les 8 minutes, là, j'aurais même pas besoin de faire mon topo, puisque y a tous les éléments sont présents dans ce petit passage. Simplement, bien sûr, je vais le faire, mais... Ce qui est montré là de manière animée, en fait, a été analysé notamment par une chercheuse américaine, américaine, qui s'appelle Janet Lever. Elle a travaillé dans les années 70, en fait, sur les différenciations sexuées dans l'organisation des activités ludiques enfantines dans des écoles américaines. Alors, je vous passe le dispositif méthodologique qu'elle avait mis en place pour faire ses études, mais c'était un dispositif qui était assez original et assez lourd, en fait, pour pouvoir mener ce travail. Et elle avait suivi de manière régulière la façon dont plus de 180 écoliers et écolières âgés de 10 à 11 ans passaient leur temps libre, à la fois hors de l'école et pendant les temps libres de l'école, donc ce qu'on appelle ici la récréation, en fait. Et également ce qu'ils faisaient au moment des activités physiques et sportives. Alors, elle avait permis, son étude montrait qu'en fait, 50% du temps libre hors école des enfants était consacré à jouer, au jeu. ce qui est quand même un usage, enfin, une proportion du temps qui est très importante. Et elle distinguait en fait six grandes différences entre les filles et les garçons dans l'usage de ce temps. La première concernait le rapport à l'espace public. Alors, bien évidemment, on va retrouver des choses que, pour le coup, tous les gens qui sont familiers avec les travaux féministes et les travaux de rapports sociaux de sexe connaissent bien, mais dans d'autres cadres. Donc, les filles jouaient majoritairement en intérieur, quand les garçons, eux, investissaient davantage les espaces extérieurs qui étaient plus ou moins éloignés du domicile. Donc on comprend bien que ce positionnement spatial a des effets directs sur la manière en fait dont les pratiques peuvent se déployer, notamment les pratiques corporelles. Hein. Il est beaucoup plus facile de gesticuler, de sauter, de hurler quand on est à l'extérieur que quand on est dans une chambre. Et je pense que tout le monde a fait plus ou moins l'essai hein, de tout d'un coup un coup de speed chez soi, à hurler, à sauter, à courir entre les pièces. Les adultes qui sont présents peuvent laisser ça se dérouler de manière temporaire, mais au bout d'un moment, ils vont mettre le holà. Donc, la manière dont les pratiques peuvent se déployer et également la façon dont la surveillance peut se déployer en direction des enfants est totalement différente si on est à l'intérieur et si on est à l'extérieur. Logique. Une deuxième différence, c'est que les groupes de pairs, donc PAIRS, sont beaucoup plus étoffés chez les garçons que chez les filles. Ce qui est à la fois une conséquence logique, mais pas uniquement, du fait que quand on joue à l'extérieur, on peut être beaucoup plus nombreux, puisqu'il y a l'espace, que quand on est à l'intérieur. Si on est dans une chambre de 9 mètres carrés, on ne peut pas être à 15. Alors que si on est sur un terrain de baseball, non seulement on peut, mais en plus on doit, puisque pour mener les activités que l'on va devoir mener sur le terrain de baseball, il va falloir qu'on soit un certain nombre. Et donc ça, c'est une autre différence, c'est la nature des jeux qui sont pratiqués. Les garçons massivement pratiquent les jeux à forte composante compétitive, donc le game, alors que les filles avaient tendance plutôt, elles, à pratiquer les jeux à tendance plus mimicrie, donc des jeux de représentation, ou alors quand elles font des jeux plus physiques, du type jouer avec des élastiques, je ne sais pas si vous avez sans doute joué avec des élastiques, c'est une forme de compétition qui est un petit peu différente de la forme purement compétitive, puisqu'il y a, c'est une forme il y a beaucoup de coopération pour faire les meilleurs gestes possibles. Enfin, il y a une dimension esthétique qui est totalement différente de la compétition des garçons, où le but du jeu, c'est de gagner. Il faut gagner, il faut emporter le prix à tout prix. Une autre différence, c'est à propos qu'elle avait repéré, c'est à propos des groupes d'âge. En fait, il y avait une hétérogénéité plus grande des âges chez les garçons, dans le sens où ce que je disais tout à l'heure, si on veut jouer au baseball, il faut qu'on soit un certain nombre. Au football, il faut qu'on soit un certain nombre. Si on n'est que entre gens du même âge, on peut se retrouver insuffisamment nombreux pour jouer. Du coup, on ne va pas hésiter à faire intervenir ce qu'on appelle les petits. Partant de l'adage qu'il faut mieux avoir un petit dans son équipe que personne. Donc les âges ont tendance à se mélanger, ce qui fait que les garçons vont être confrontés assez rapidement aux dispositions qu'on attend d'eux en termes de pratique de jeu, c'est-à-dire des dispositions déjà d'ordre viril, à savoir, si vous vous prenez un nion pendant le football, il ne faut pas pleurer. Il y a des règles, il faut apprendre à les respecter. Et si les règles ne sont pas respectées, il faut apprendre à discuter autour de l'écart à la règle pour pas que ça se transforme en pugilat et que le jeu soit complètement annulé et que tout le monde parte dans tous les sens, etc., etc. Sachant qu'elle avait remarqué que les filles qui pouvaient aussi avoir des écarts d'âge, il y avait une chose qui était complètement différente, c'est les plus âgées qui se mettaient au même niveau que les plus petites. Alors que chez les garçons, on demandait aux plus petits de se mettre au niveau des plus âgés. Donc là, il y avait une dissymétrie par rapport à la manière dont on se positionne dans le groupe. Les garçons, on leur demande de se plier aux dispositions viril, même si pour eux, ils sont, enfin, ils l'appellent pas comme ça eux à ce moment-là, alors que les petites filles, elles se mettaient en fait déjà en position de plutôt de care en direction des plus petites. Autre différence, les filles jouaient davantage au jeu à dominante masculine que le contraire. Et quand elles jouaient davantage au jeu masculin, elles se pliaient plus facilement aux règles établies que lorsque les garçons jouaient chez les filles. Exemple, si un garçon joue à l'élastique, il va le faire, mais il va avoir tendance à tout d'un coup introduire une dimension absurde ou une dimension un petit peu de charivari dans le jeu, alors que les filles, si elles font ça dans un match de football, elles se font sortir du terrain tout de suite. Donc là, c'est une question qui se pose, c'est pourquoi dans un cas, on suit les règles et pas dans l'autre. Il faudrait rentrer dans les discussions que je ne peux pas faire là. Mais... Et la dernière différence, je l'ai mentionné, mais c'est vraiment une grosse différence, c'est le rapport au jeu compétitif. Les garçons pratiquaient à l'époque beaucoup plus de jeux compétitifs que les filles, presque deux fois plus. Et à nouveau, il y a une différence dans la manière de pratiquer, y compris parfois dans le but recherché. Alors on pourrait penser des travaux des années 70 sur ça, quel intérêt ça a en fait pour des discussions actuelles et encore plus pour le jeu dans le monde du travail. Ben, en fait, elle parle de nous, enfin en tout cas elle parle de moi, puisque c'est exactement la tranche d'âge. Quand elle était sur le terrain, c'est à peu près la tranche d'âge qui me concerne, moi. Donc, en fait, les enfants de l'époque, c'est les adultes qui sont actuellement dans le monde du travail et qui sont confrontés, justement, au processus de gamification au travail. Donc, forcément, le lien n'est pas si lâche que ça. Et d'une autre manière, les travaux qu'elle a fait à l'époque ont été repris, poursuivis par d'autres chercheurs qui ont confirmé de manière régulière ce qu'elle avait déjà mis en évidence. Et pour donner un exemple très récent, un article qui est paru dans les Cahiers du Genre en 2010, donc Cahiers du Genre, c'est une revue qui appartient à cette maison puisqu'elle est là-haut, donc Mona Zegaï, qui a travaillé sur les jouets, en fait, et la manière dont les jouets sont sexués, à la fois dans leur construction, dans leur conception, mais également dans la manière dont les jouets sont mis en scène dans les magasins, dont les distributeurs, dont les vendeurs mettent en scène dans leur catalogue, les jouets en direction des prescripteurs, que ce soit donc les parents ou les consommateurs directs si les enfants achètent eux aussi directement. Mais bien évidemment, elle a surtout analysé la manière dont les jouets contribuent en fait à la construction des dispositions sexuées chez les enfants. Et notamment, elle s'intéresse beaucoup au cas des petites filles, hein, à qui on adresse quand même un certain nombre de jouets qui relèvent directement de la sphère domestique, que ce soit un faux aspirateur, un faux fer à repasser, que ce soit une fausse kitchenette pour faire la cuisine, etc. etc. Ouais. Et donc là, je la cite. « En prenant place dans un univers ludique dans lequel les apprentissages se font en douceur, les activités domestiques apparaissent comme un jeu et sont par conséquent investies de sentiments positifs. Ces jouets d'imitation peuvent ainsi alimenter une certaine complicité féminine. » De cette manière, les enfants intègrent des informations sur la division sexuée des pratiques sociales dans le monde réel, développent des goûts et des aspirations qu'ils pourront bientôt mettre en pratique dans le monde ludique et dans le monde réel. Donc là, bien évidemment, les enfants n'achètent pas, un enfant de 3 ans n'achète pas lui-même je sais pas quoi, une kitchenette ou un déguisement de Zorro. On en passe par des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est les adultes. Donc que ce soit les parents, les oncles, les tantes, qui on veut. Et on voit bien qu'à travers un certain nombre de signaux éthiques et affectifs, les adultes contribuent à assigner déjà les enfants dans une appartenance de sexe dès leur plus jeune âge. Donc les jouets, en fait, et les jeux, à la fois imitent le monde réel, mais également préparent au monde réel, d'autant plus facilement que les prescripteurs auront un rapport affectif positif avec ces jouets et avec ces pratiques. Et donc là, les affects, donc tous les travaux de psychodynamique du travail qui s'intéressent à ces questions, pour le coup, sont importants pour qu'on comprenne la manière dont cette question s'articule avec ce que nous, les sociologues, on pourrait prendre comme quelque chose d'un peu plus éloigné. C'est bon ? Ouais. Oh, je vais être obligé de conclure. Ah ouais, il faut que je finisse avec mon jeu, parce que sinon, vous allez dire que... Non. Alors. Je passe. Centre d'appel téléphonique. Qu'est-ce qui se passe ? On a affaire, en fait, à une organisation du travail qui, dans une période de crise profonde des collectifs de travail, alors cette crise, elle prend notamment la forme de décompensations plus ou moins graves, mais les plus graves étant des passages à l'acte suicidaire aboutissant à la mort. Donc, dans un cadre extrêmement... délétère au niveau de la santé mentale et physique des salariés, l'entreprise met en place un certain nombre de dispositifs ludiques qui s'appellent des challenges, destinés en fait à, dans un premier temps, destinés à stimuler à la fois l'esprit d'équipe, remettre du lien entre les équipes, etc., et à également, bien évidemment, augmenter la productivité des vendeurs. Ces dispositifs ludiques, entre guillemets, alors je ne mets pas les guillemets à chaque fois, mais faut, à chaque fois que je dis ludique dans ce cadre-là, il faut mettre les guillemets. Ces dispositifs que j'ai requalifiés d'ailleurs ludistes, en fait, ces jeux manageriaux sont de différents types, mais globalement, ils sont de l'ordre de l'agone, de la compétition. Soit de la compétition entre équipes de travail, soit de la compétition entre salariés, avec des pratiques très infantilisantes consistant à accrocher les résultats de chacun au mur, à envoyer des mails pour les mauvais participants, les mauvais joueurs, ceux qui ne jouent pas le jeu et qui font donc baisser les performances de leur équipe, etc., etc., etc. Donc nous, on arrive dans avec Edouard Trollo, on arrive dans cette situation et on rencontre ce qu'on pourrait appeler des rebelles, puisque ce sont des gens qui ont... refuser plus ou moins fortement de rentrer dans la combine de ces jeux-là. Sachant que ces jeux n'ont pas uniquement contribué à augmenter la productivité de certaines équipes de vendeurs, elles ont également, en fait, contribué à modifier un certain nombre de valeurs éthiques qui étaient portées par les groupes des salariés jusque présent. Par les pratiques ludiques, en fait, un certain nombre de valeurs qui étaient importantes, comme le respect du client, comme l'attention à la demande du client, ont été petit à petit abandonnées au profit en fait du seul impératif de vente et du seul en fait impératif de productivité pour alors avoir les primes qui sont liées au parce que bien évidemment chaque dispositif de jeu a sa récompense, que ce soit une récompense sonnante et trébuchante avec de l'argent ou des cadeaux, etc., ou que ce soit une récompense un peu plus d'ordre, je vais dire, je ne sais pas comment la qualifier, mais symbolique, ou peut-être plus directement une décharge pulsionnelle. Quand vous aviez fait une vente, vous aviez le droit à un moment donné de prendre un ballon de hand et d'aller tirer un but qui avait été installé dans le centre d'appel avec un de vos collègues qui était gardien de but, et vous aviez le droit d'aller tirer un ballon pour marquer un but, et comme ça marquait un but pour votre équipe. Donc c'était à la fois, ça permettait de lâcher une sorte peut-être d'agressivité liée à la vente qu'on avait fait jusqu'à présent, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que bien évidemment pour réussir à tenir les objectifs de vente, il fallait en passer par de la sale vente, du sale boulot, mentir au client, voler le client, tromper le client en fait. Et donc les jeux ont permis de faire tomber un certain nombre de barrières éthiques, de valeurs, chez un certain nombre d'anciens conseillers qui sont devenus uniquement des vendeurs. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop décousu. J'ai un texte nettement plus carré pour ceux qui sont intéressés. Je pourrais tout à fait le faire circuler et pourront le lire à tête reposée. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. On va passer à la deuxième intervention, si tout le monde est prêt. La tâche ardue de faire une petite synthèse et une discussion. Avant de prendre les questions de la salle, on passera avec un micro pour les questions. Donc Nicolas va répondre à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on fera 20 minutes de questions.
Merci Aude. Effectivement, quand j'ai vu les textes arriver, j'aurais pu avoir le réflexe de me retrouver du côté anal, c'est-à-dire bien dans la merde, dans le sens où je suis complètement ignare à la fois des travaux, de la manière dont Stéphane s'inscrit en sociologie, en psychodynamique du travail, etc., et par ailleurs en clinique, etc. Et donc, du coup, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, c'était plutôt de l'autre côté de la force. C'est-à-dire que ça m'a assez excité, dans le sens où, vu que j'ai cette hignardise, bon, bah, je l'assume, et puis je vais parler d'où je suis. Voilà. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça me dit? Voilà, donc merci à Anne et à Aude pour ce pari, ce jeu. Et désolé à mes voisins pour toutes les mécompréhensions, bêtises ou etc. que je pourrais dire. Mais le pourquoi du pari qui m'a plu, c'est une question épistémologique, c'est-à-dire comment on réfléchit la question de l'individu, du groupe, de la société, et comment on généralise en sciences sociales. C'est des questions qu'on se pose beaucoup chacun dans nos disciplines, ou dans nos sous-champs, etc., en fonction de nos objets, et que l'on a rarement l'occasion de confronter. Voilà, je ne vais pas être trop long. Donc d'où je parle? Donc je suis sociologue du monde ouvrier, et je parlerai ici de... je vais raconter une petite histoire pour commencer, à partir de ma thèse que j'ai donc effectuée à la fin des années 90. Donc sociologie de la domination, où je suis très attentif aux relations de pouvoir, mais justement aux relations de pouvoir, c'est-à-dire que je travaille en ethnographe, où j'observe les individus, les groupes ensemble, qu'est-ce qui se passe dans les interactions, dans les rapports de pouvoir, avec ces dimensions relationnelles, et puis aussi le côté historique, c'est-à-dire que je ne suis pas un lecteur de psychanalyse, mais je suis un grand lecteur d'historiens, et je m'inspire beaucoup de leurs travaux. Donc c'est ce qui va inspirer mes quatre domaines de remarques que je vais faire, remarques, questions. Mais avant cela, je vais donc vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire, justement, de ce qui fait un des points communs entre ces deux textes, c'est l'enfance. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire d'un enquêté que j'ai la chance de connaître depuis très très longtemps, puisqu'on s'est connu enfant. Et à l'époque, quand il était enfant, il était appelé par le prénom de son père, à savoir Gabi, enfin le surnom de son père. Donc un enfant d'ouvrier, lui-même devenu ouvrier, dans un village ouvrier que j'ai enquêté pendant de longues années. Ça, c'est pour le contexte. Très très rapide, et donc en métallurgie, etc., je ne reviendrai pas sur le contexte, on ne va pas perdre du temps. Et donc il s'appelait, en fait son vrai prénom, enfin, tel que je l'anonymise, c'est Thierry. Il se faisait appeler enfant par ses copains, en fait il se faisait appeler Thierry dans sa famille, hein, c'est tout. Ses parents l'appelaient, puis il se faisait appeler. Il était appelé comme ça. Il était objet de la chose. Dans l'espace de ses amis, il était appelé Gabi, donc comme son père, jusqu'au jour où, enfant grand enfant, une dizaine d'années, accompagnant son père aux affouages. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que sont les affouages, c'est les coupes de bois que les communes rurales donnent à disposition aux habitants. Et donc, à un moment aux affouages, il est en train d'aider son père, et puis il y a ses copains qui arrivent pour venir jouer avec lui, et puis et son père lui dit « Allez, vas-y, ch'ti boquin !» Alors, ch'ti boquin, c'est petit lapin. Lapin ou lièvre, avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire que quand le père dénomme son fils comme ça, ch'ti boquin, c'est le côté familier du contexte rural, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... En milieu populaire, on va appeler les garçons mon lapin, les filles ma caille, ou les enfants mon gamin, gamine, quoi. Il y a le côté, voilà. Et donc, derrière le côté nature, animaux, etc. Et donc, il l'appelle comme ça, ch'ti boquin, ce qui fait énormément rire ses copains. Et ensuite, Thierry Boquin grandit. Et c'est quelqu'un qui incarne en fait une forme de reproduction du monde ouvrier rural, c'est-à-dire qu'il va devenir ouvrier, qualifié avec un CAP de métallier dans une industrie où plus personne n'est qualifié dans ce domaine-là, et donc il va incarner une forme de force ouvrière qui va se matérialiser aussi dans le domaine des loisirs avec le football, puisque c'est le numéro 10, le capitaine du club local, et aussi sur le marché sexuel, puisque c'est quelqu'un qui a une grande réussite avec les filles. Et d'où l'ambiguïté aussi de Boquin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le surnom va se généraliser dans tout l'espace local, au travail, en dehors, il va être appelé Boquin, avec l'ambiguïté de la chose, c'est-à-dire que Boquin, c'est celui qui court vite, qui court bien, mais qui court aussi après les filles, ou alors Boquin Bouc, c'est-à-dire celui qui fait porter les cornes aux autres. Voilà. Donc tout ça pour dire que... Alors, pour finir sur l'histoire, Thierry Boquin est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en usine quand j'étais manœuvre saisonnier pour faire mes observations, avec qui j'ai pu jouer au football. Et quand j'étais à l'usine, en fait, le chef nous a mis ensemble, donc j'étais parrainé par Boquin, qui m'a entraîné comme ça dans les tâches, en faisant passer les pièces sous les presses, etc. Et c'était à la fois, pour moi, c'était sidérant, jeune intellectuel en formation, c'est-à-dire qu'il y avait cette manière de surmenage corporel, à vouloir absolument faire tant de pièces en tant de minutes, etc. Et dans le même temps, Boquin était un champion pour traîner de la pâte, pour se faire oublier, etc., pour disparaître aux toilettes, pour discuter au café, etc. Donc voilà. Et donc, en fait, il y a deux choses que je voudrais dire là. À la fois le côté... je vais venir au sujet, vous inquiétez pas. Le côté économie morale, au sens de Thompson, a été traduit il n'y a pas longtemps, La guerre des forêts, donc qui renouvelle un peu l'apport de Thompson sur la condition, la formation de la classe ouvrière. Et donc, c'est ce qu'il y a derrière les affouages, c'est-à-dire ce côté, les temps immémoriaux, populaires, etc., en dehors des rapports de domination, où justement on peut s'approprier quelque chose, donc on quitte l'espace de domination, ou du moins il y a une forme d'autonomie partielle. Et puis, l'autre chose, c'est ce que Alf Lutke appelle l'Eigensinn, c'est-à-dire le fait de n'en faire qu'à sa tête, son quant à soi, c'est le geste les gestes que incarne Thierry Boquin à l'usine, quand à la fois il s'approprie le travail en étant dans le surmenage, il me dit « Allez, faut y aller !» Comme au foot, il dit « Allez les gars, on y va !» Voilà, c'est ses mots à lui. Et puis en même temps, la flânerie, c'est-à-dire le côté « Je m'approprie la dimension, la division du travail, la hiérarchie du travail, je ne suis pas qu'un dominé, qu'un agent de l'usine, je suis aussi ouvrier pour moi-même. » Voilà, donc à partir de là, donc maintenant vous savez d'où je parle et à partir de quoi je vais discuter. Alors, le premier point, il y a quatre blocs. Le premier, c'est sur la différenciation et les hiérarchies au travail. Le deuxième, sur le genre. Le troisième, sur le langage. Et le quatrième, sur les processus et les contextes. Donc je vais essayer d'aller assez vite, mais tout en restant clair. Alors, plusieurs questions, remarques, parce que dans vos textes, tels que je les ai lus, moi, en sociologue, tel que je viens de l'écrire, donc ethnographe, historien, etc., il y a d'une part la question des hiérarchies au travail, donc des divisions et des différenciations internes que la sociologie observe. Et pour Stéphane, il y a plusieurs questions autour de l'aliénation au travail. C'est-à-dire que quand tu développes dans le texte les questions de c'est un texte qui est très touffu, très foisonnant, très riche, et en même temps, des fois... je me dis, de mon point de vue empiriste, je vois pas très bien, j'en vois pas assez. Tu me donnes pas assez de billes. Et donc, du coup, par exemple, sur la question que tu as évoquée à la fin, donc ton exemple de jeu autour de dans cette entreprise de centre d'appel, Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le chef est doté d'une forme de charisme, tel qu'on peut le voir dans le film avec DiCaprio que tu évoques dans ton texte? Comment se passe l'alignation? Et pour faire pendant avec ce que je viens de raconter sur l'Eigensinn, est-ce qu'il y a d'autres formes de jeu? Alors, tu l'évoques un peu sur le terrain des éboueurs, dans le lien à la machine, etc. Mais sur ce terrain-ci de la téléphonie, est-ce qu'il y a des formes de résistance, d'appropriation du travail, de jeu contre la hiérarchie ou en dehors du regard de la hiérarchie? Voilà. Alors, du point de vue de la différenciation, par rapport à Christophe, il y avait deux choses. La première... j'ai été vraiment. Il y a vraiment des passages lumineux dans ce texte, dans votre topo, qui m'ont beaucoup éclairé, notamment cette question du double mouvement implantation et séduction entre adultes et enfants. Et justement, donc Elias a été cité plusieurs fois, et je voudrais poser la question d'Elias, c'est-à-dire comment les adultes. Ben, on n'est pas. Quand vous dites, ce n'est, en reprenant la plante, ce n'est pas la société qui façonne, je ne sais plus comment c'est dit, les parents sont dans la société. Pour moi, tels que là, je fais la sociologie que je fais, les parents, ce sont pas, deux parents ne sont pas équivalents parce qu'ils ont des propriétés sociales. Un exemple tout bête, la question de l'allaitement, par exemple. On voit très bien des très nettes différenciations autour de l'allaitement. Il y a des travaux qui ont été faits sur la question, c'est-à-dire que l'allaitement, qui était après-guerre dans les pays occidentaux une pratique très populaire, aujourd'hui ne l'est plus. C'est-à-dire que l'allaitement, en fait, elle est d'abord pratiquée par, en gros, les femmes de nos milieux, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont avec du capital culturel, qui sont proches des milieux, des normes de puériculture, des normes de nutrition, etc. Contrairement au milieu populaire, où il y a le côté pratique du biberon, parce que ça met une distance à l'enfant, etc. Et l'autre question qui est plus centrale, enfin remarque question, c'est autour du tripotage. J'ai vraiment beaucoup aimé ces questions, mais je me demande s'il n'y a pas quand même une manière de mise en équivalence entre les différents métiers évoqués. C'est-à-dire qu'on part des peintres, des sculpteurs, de l'écrivain qui triture la matière, etc. Et puis on en arrive à la liaison. On en arrive à l'ouvrier, au menuisier, etc. Or, est-ce qu'on peut les mettre sur un pied d'égalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme, une forme d'intellectualocentrisme? C'est-à-dire que nous, on est plutôt proche de la culture, des lettrés et des créateurs. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une manière de regarder les métiers faits par des gens de peu, des gens de milieu populaire? Avec le regard des intellectuels que nous sommes, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça pour le voilà. De même, le côté éliassien. Donc il y a cette très belle phrase qui a fait rire tout le monde et qui m'a fait beaucoup rire aussi dans le texte. Un avion, ça se pilote pas avec des consignes, ça se pilote avec les fesses. Si on lit bien Elias, oui, quand on est seul ou Maurice Halbwachs sur la mémoire collective, etc. On n'est jamais seul dans une société. C'est-à-dire que même quand on est seul face à sa machine, on a en tête tout l'apprentissage qu'on a eu, le milieu dont on vient, les collègues, la relation aux collègues. Est-ce que quand on cherche à faire péter le mur du son, est-ce qu'il n'y a pas les collègues qui sont en train de nous regarder, etc. Et puis voilà. Et même la question par rapport à la différenciation, je la repose à Stéphane par rapport à ton entrée en matière, c'est-à-dire que est-ce qu'on s'est tous posé la question de savoir comment on allait s'asseoir aujourd'hui? Donc il y avait toi, il y avait moi aussi, puisque je t'avais lu. Mais est-ce qu'on est tous assis de la même manière? Voilà. Alors, deuxième grand questionnement autour de la question du genre. Alors là, encore une fois, donc la question du genre... Oui, finalement, je trouve dans le questionnement de Stéphane que la question de la différenciation homme-femme apparaît finalement assez peu. C'est-à-dire qu'il y a en début de texte la question de l'enfance et des jeux, des jeux enfantins. D'ailleurs, est-ce qu'on est les enfants de ces générations-là, puisqu'on est à peu près de la même génération, je pense, je suis du début des années 70, enfin, l'enquête de Lever est publiée en 76. Tu dis bien dans le texte qu'elle a circonscrit sa population aux classes moyennes blanches états-uniennes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a grand monde dans la salle qui est issu de ce... Voilà. Mais du coup, la question, c'est par quel vecteur ça passe, quoi. Si l'hypothèse de la gamification, eh bien... Eh bien là, c'est-à-dire qu'il y a une intégration dans le monde du travail des jeux qui était déjà une modification issue des années 70 et des socialisations enfantines. Comment ça se passe? Quels sont les procédés, quoi? Donc ça, c'était sur le genre. Après, je me demande s'il n'y a pas une forme de glissement entre... est-ce que le... Alors, je ne sais pas, c'est vraiment une question, peut-être une mécompréhension. Est-ce qu'il n'y a pas une réduction entre l'agonistique du côté du masculin et la sollicitude, le care, du côté du féminin? C'est-à-dire que tu as cité certains jeux comme les cow-boys ou la marelle. À ma connaissance, la marelle, c'est essentiellement quelque chose de féminin dans les cours d'école. C'est quand même un jeu de compétition. C'est-à-dire qu'il faut... C'est le premier qui arrive au ciel. Donc, il y a quand même de la compétition. Est-ce que... Voilà, jusqu'où elle va, la métaphore? Donc sur la question du genre, alors là, oui, effectivement, le côté lumineux, quand j'ai lu « Il n'y a pas de genre, il y a un genre », moi, ça m'a vraiment éclairé, ça m'a vraiment remis les choses en place, voilà. Je ne suis pas de... Voilà, on a tous ces socialisations scientifiques, bref, ça m'a beaucoup éclairé, peut-être que je suis très naïf en disant cela. Mais au final... Donc je suis d'accord avec, enfin je suis d'accord, je ne peux qu'acquiescer, enfin voilà, mais en même temps, dans la question de l'implantation et de la séduction, ça rejoint un peu la remarque que j'ai faite tout à l'heure, les hommes et les femmes sont peu présents dans le topo, c'est-à-dire, d'accord, le genre, on est, enfin c'est pas le sexe qui est premier, c'est le genre. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait d'être, par exemple, un exemple tout bête, dans mon enquête, j'ai vu les hommes de milieu populaire se mettre à pousser les poussettes, voilà. Ou quelques-uns aller au rendez-vous des mamans à la sortie de l'école à 16h, à 16h30, certains qui étaient au chômage ou qui avaient des horaires décalés, etc. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, et donc il y a des bouleversements sociétaux comme ça qu'on voit et le bon, bref, la question n'est pas très claire, mais je l'ai un peu perdu au fil. Donc le troisième thème, parce que je suis un peu long, c'est autour de la question du langage. Alors le langage, pour moi, ça appartient au corps, c'est une des manifestations de c'est évoqué dans les deux textes. Je l'ai évoqué avec la question des surnoms, du lapin, de la caille, du boquin, etc. Et j'avais en tête encore une fois la question de la différence sociale à travers le langage, en fait, avec les vieux travaux de Bernstein, Basil Bernstein de sociolinguisme, autour de la différenciation sociale. En gros, pour schématiser, il y a d'un côté le savoir savant, et puis d'un autre un savoir pragmatique, c'est-à-dire une manière. Le savoir savant, c'est donc le savoir que l'on devrait avoir nous tous, c'est-à-dire qu'on a appris à l'école, on a réussi, on a eu des diplômes, on a eu des métiers où on est en thèse, etc. Donc on l'a appris, on le maîtrise, et voilà. Et puis il y a un savoir pratique, pragmatique, populaire que Gillian Evans, l'anthropologue américaine, appelle le drame social du travail, c'est-à-dire dans la narration populaire, il y a une façon de dire les choses, de dramatiser les événements, de raconter les malheurs des uns et des autres, et puis d'être très concret dans la narration, de raconter une histoire, et puis il m'a dit ça, et puis j'ai fait ça, et puis alors il y a machin qui est arrivé, et puis voilà. Donc, et c'est deux registres de langage très différenciés, et donc là, voilà, la question c'est comment on fait avec ça. De même par rapport à Stéphane, est-ce que tu as des exemples de comparaison dans le langage, parce que tu évoques la question du langage du côté des éboueurs, est-ce que tu as des exemples du côté de la téléphonie, et est-ce que tu peux comparer les deux en termes de la manière dont on parle de ses collègues, dont on parle de son métier, dont on parle de la machine dont on a, voilà, et de ses chefs, et des personnes qui sont en dessous de nous dans la hiérarchie du travail, etc. Dernier point autour du processus historique et du contexte, la contextualisation, c'est un peu ce qui m'a manqué dans ton topo, Stéphane, c'est-à-dire, il me semble qu'il y aura tout intérêt à réintroduire les questions des États, des États-nations, des processus historiques. C'est-à-dire qu'être enfant dans les années 70 ou aujourd'hui, c'est pas la même chose. Avec certains collègues, on a fait un travail autour de la sociologie de la différenciation des enfants, de la différenciation sociale des enfants, avec Cédric Lombat notamment, avec l'idée d'aller voir de près ce qui se passe dans l'enfance et comment les enfants se différencient. C'est très compliqué à observer, mais on peut... On peut essayer de le faire, voilà. Et par rapport à... Alors, dans la conclusion de Christophe, on revient sur la psychodynamique du travail et les résultats contemporains autour de l'auto-accélération et de la servitude, dans laquelle on se reconnaît tous. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on reconnaît. Alors là, du coup, le sociologue rend grâce au psy et de la manière dont il arrive aussi à généraliser à partir d'une logique épistémique qui est celle de l'individu, pas celle du groupe ou de la relation. C'est effectivement, on voit cette auto-accélération, on la voit dans tous les milieux, à des degrés divers, voilà. Néanmoins, le processus revient à la fin, c'est-à-dire qu'il est un peu absent du texte, et à la fin du texte, on a ce truc qui est très contemporain, enfin qu'on voit quand même depuis, qu'on commence à voir depuis quelques décennies, mais qui ne fait que s'accélérer. Et du coup, par rapport au, je pense notamment aux travaux de Daniel Kergoats autour des employés, qui différenciaient déjà dans les années 80 les employés stables et les employés en voie de prolétarisation. Et donc voilà, encore une fois, c'est toujours, en fait, je tourne toujours autour de la question de la différenciation sociale, quoi. Voilà.
Merci. Je vous laisse répondre peut-être rapidement et ensuite on prendra les questions de la salle. Vous préférez ?
Ce que je vous ai demandé, c'est que moi je ne suis pas capable de répondre rapidement à ces questions. Voilà. Donc il faut, c'est vrai qu'il y a un problème parce qu'il a fait un travail énorme de lecture des textes, et donc il y a plein de questions importantes, enfin, je trouve en tout cas très intéressantes, mais c'est difficile d'y répondre trop brièvement, donc peut-être si vous voulez que...
Prendre des questions
de... Oui, je pense que ce serait peut-être mieux, non ?
On peut faire comme ça.
Stéphane, what's your mind ?
Moi je répondrai dans mon HDR.
Il faudra nous inviter alors.
Oui, je vais réagir très rapidement, juste parce que bon, il y a énormément de personnes, j'imagine, qui veulent répondre et discuter dans la salle. J'ai trouvé très complémentaires les deux exposés, même s'ils sont très hétérogènes, dans la mesure où, d'une part, je pense que Christophe a donné toujours beaucoup d'importance à la question du jeu. Et du jouer dans l'économie interne de sa construction théorique. Et je pense qu'il s'est lancé, Stéphane, dans la théorie des jeux d'une manière tout à fait imprévisible, au moins de mon point de vue, parce que dans sa trajectoire, je n'ai pas imaginé qu'il allait arriver au jeu de cette manière-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant. Je suis d'accord avec les discutants que peut-être ça aurait été mieux d'avoir une inclusion plus systématique du genre, de l'explication par le genre, mais peut-être qu'il le fera maintenant dans les petits moments qu'on aura pour les débats. J'ai trouvé que dans ce qu'a dit Christophe sur virilité et mulébrité, ça m'a beaucoup fait penser à la question, à partir de son point de vue sur la rationalité instrumentale, la virilité, etc., à quel point cette présentation était antinomique avec l'équerre, justement, parce que tu vois, par exemple, dans toutes les thèses de Gilligan, contre Kolberg, contre son prof, donc, où apparaît l'émotion, les concrets, etc., un antinomie avec ce que tu as décrit comme étant l'irrationnel, l'abstrait, deux conceptions de la justice, deux conceptions de l'éthique, etc. Et ça m'a paru vraiment très intéressant de lier tout ça au travail, parce que elle ne le fait pas, hein. Ni elle ni lui le font de manière très explicite, y compris parce que leur terrain et les enquêtes qui nous donnent à voir ne sont pas liées au travail. Et le commentaire et question que je voulais poser à Christophe, c'est je pense que quand tu parles d'identité sexuelle et que tu apportes la contribution spécifique de la planche, en fait, sur l'identité sexuelle, ça, je me suis dit pourquoi tu ne te réfères pas à Butler, hein, parce que je sais que tu as travaillé avec et sur Butler, que tu as écrit des choses sur Butler. Et pourquoi est-ce que tu ne mentionnes que ces archis vieilles théories de Daniel Kerguat, Elena Hirata, etc., c'est-à-dire la division sexuelle du travail, quand il y a eu en même temps d'autres apports, ou est-ce que tu considères qu'il n'y a pas d'apport de Butler? Donc, je pose la question spécifiquement par rapport à Judith Butler et par rapport à la présentation de Stéphane. Tu as très rapidement mentionné Mona Zegaï et donc le numéro sur les objets de l'enfance, dans les cahiers du genre consacrés aux objets de l'enfance. Et je crois que c'est vraiment un biais extrêmement riche pour sexualiser, donc sexuer tout ton matériel théorique et de réflexion. Et je crois qu'il y a beaucoup, il n'y a pas que Mona Zegaï, je crois qu'elle est très très bien, mais on pourrait, dans ce sens-là, élargir beaucoup l'éventail, taille, disons, du matériel que tu exploites déjà maintenant si bien.
Merci beaucoup. Bon, je vais tenter aussi d'être très bref. Ce qui est un peu difficile. Bon, je vais poser deux ou trois une question pour Stéphane et deux ou trois petites questions pour Christophe Deyour. Pour Stéphane Lélé, une question naïve. Qu'est-ce qu'on fait des frontières entre les domaines latéraux, des domaines différents de l'action? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on apprend dans les jeux, on le transmet de manière mécanique? Je sais bien que vous pensez que non, mais je voudrais vous entendre sur ces questions. Ce qu'on apprend dans les jeux, on le transpose dans les autres domaines de l'action? Je crois que non. Je suppose que vous êtes d'accord. Parce que les manières d'être, les habitudes, les manières de comportement, ils ne sont pas si cohérentes. Et en fait, nous avons plusieurs formes de faire, d'indiquer aux gens qu'on passe d'un domaine, par exemple du domaine de la blague, à un autre domaine. Et voilà, ce sont des sortes de petites formes de purification. De purifier, on peut dire, les rapports et de dire ces rapports se faisaient dans un contexte, par exemple, ludique, alors on rentre dans un autre type de rapport et on tente d'oublier ou on va jouer à une autre chose. Donc, ça serait la question, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est clair, les différences entre les domaines latéraux et ou si vous croyez qu'ils sont des frontières assez perméables. Et que voilà, il y a une sorte de cynisme pour dire on continue à être des copains, même si on s'est agressé gravement pendant le jeu, et qu'au fond on continue à s'agresser. Voilà, la première chose. Moi, j'ai trouvé, comme toujours, quand je le lis, quand j'ai eu l'opportunité de l'entendre, très brillant l'exposition de Christophe Deyour. Et je me dis toujours quand je le lis ou je l'entends, que ça pose un vrai problème pour la sociologie. Ça pose un vrai problème pour la sociologie, et c'est pas, et peut-être la sociologie a tort. Peut-être la sociologie a tort. Mais je crois que, ou peut-être je comprends mal. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous croyez à une forme de corps érogène. Et au-delà des cadres sociaux dans lesquels sont impliqués les agents qui produisent les enfants, les parents, ces corps érogènes. Je trouve ça intéressant et important, même pour s'expliquer des formes de résistance au processus de normalisation qu'on trouve parmi beaucoup de gens, qu'on appelle des comportements irrationnels, mais qui peut-être ont une sorte de rationalité différente. Et je trouve fondamental l'apport de la psychanalyse pour penser ces formes de rationalité. Donc, Voilà ma question. Ma prise de position est en suspens. J'assume l'assistance d'un autre corps qui n'est pas complètement investi, incarné par les institutions sociales, que ce n'est pas le corps de Bourdieu, que ce n'est pas non plus le corps de Foucault, que ce n'est pas le corps de Goffman, c'est un autre corps. Mais je vous formule des doutes. En assumant que ça existe. Et je crois que ça, c'est très important pour la manière de faire la sociologie du corps, si la sociologie du corps tient au défi de votre théorie du corps érogène. La première, on peut dire, du point de vue héliacien. Les formes d'érotisation du corps, les plis basiques, je comprends bien que vous parlez des plis basiques, sont-elles les mêmes à l'époque où la beauté était centrée sur le visage? Je parle des études, par exemple, de Vigarello sur le corps au Moyen-Âge et sur les mains, sur le visage, parce que ça recevait la lumière de Dieu. À l'époque où les formes de séduction et des rapports de séduction se faisaient par l'écriture, c'est-à-dire les gens s'écrivaient des lettres. Les gens ne se voyaient pas dans des boîtes de nuit, dans un marché libre du corps. Ils s'écrivaient des lettres. Et parfois, ils se voyaient une fois par an, s'ils se voyaient. Donc, ils sont les mêmes. Il y a des variations historiques. Question que je me pose. Donc,
On va peut-être prendre d'autres questions.
J'arrête ici parce que c'est déjà tout.
Merci pour votre question.
Merci pour vos présentations, c'était très intéressant. Juste pour la première présentation, je me disais que par rapport au fait que quand les jeunes filles se mettent à jouer à des jeux de garçons, elles se plieraient complètement aux règles du jeu. Je pense qu'il faut toujours, enfin, c'est intéressant, mais toujours se rappeler que les gens négocient toujours les règles et ont des pratiques de résistance, et même les petites filles, et je pense surtout les petites filles, même si elles sont peut-être moins visibles, je pense qu'elles sont quand même extrêmement présentes, et c'est peut-être sur ça qu'il faut s'intéresser. Et aussi, je voulais aussi vous demander, je comprends très très bien l'intérêt de parler de virilité défensive par rapport, par exemple, au travail et pas de masculinité. Mais alors peut-être que c'est des choses qui ont déjà été faites, mais je me demande comment est-ce qu'on pourrait articuler, je sais pas, par exemple, les différentes formes de masculinité de Rewin Connell à la virilité défensive au travail, ce qui nous permettrait d'intégrer et de mixer un peu les nouvelles théories comme celle de Butler avec.
Alors, je ne suis pas sociologue, je ne travaille pas dans le domaine des sciences sociales. Je m'exprime en tant que citoyenne, on va dire, et parent. J'étais très intéressée par la présentation de Monsieur Lelay et je me demandais si les nouvelles formes d'éducation alternative, type Montessori, ne cassaient pas justement les codes dont vous avez parlé au début, avec le fait de s'asseoir, d'avoir des classes bien établies, les jouets ne sont pas sexués dans ce type d'établissement. Voilà, donc c'était peut-être plus une réflexion qu'une question, parce que vous en avez déjà beaucoup.
Une dernière, c'est bon ? Bon, alors je laisse la parole aux intervenants. Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Stéphane, tu me... Oui, sachant que après les réponses aux questions, Régine Berco va faire une petite conclusion de la journée, petite, et après on va boire un coup. Pauvre Régine.
Je suis incapable de répondre à ces questions en fait. Ouais, mais c'est bien pour ça que je me suis lancé là-dedans, en fait. C'est que... Je sais qu'il ne faut jamais le faire, se lancer dans un truc oral, qu'on commence parce qu'on se retrouve confronté à des questions auxquelles on n'a pas les réponses, donc on passe pour un con. Mais je suis quasiment incapable de répondre à l'ensemble de ces questions, si ce n'est les questions qui ont lié au terrain, mais je les ai pas... En fait, je les ai pas mobilisées parce que c'est déjà publié ailleurs et que je... je refais jamais deux fois la même chose, d'où le fait que je me mets dans des situations comme ça. Et en fait, comme je l'ai dit, je vais travailler mon HDR sur ces questions-là. Donc la plupart des questions que vous m'avez adressées, pour moi, c'est une obligation de travailler pour être capable dans l'HDR de répondre à ces questions-là. Voilà, je suis désolé, je botte en touche, mais je ne peux pas répondre aux questions.
J'imagine qu'effectivement, il faut être rapide. Donc, tout ce que j'avais préparé, ça ne colle pas. Mais j'étais vraiment passionnée par cette discussion. Et alors, c'est effectivement moi qui ai lu les textes. Je ne les ai pas reçus de la même manière à l'oral qu'à l'écrit. Et je dirais presque à l'inverse, l'un de l'autre. Bon. Et quand Christophe Dejour a exprimé les choses par oral, je me suis dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai lu. C'est bizarre, hein. Enfin, je crois que pour conclure sur la journée, ce qu'on peut dire, c'est que on a essayé aujourd'hui de faire l'interdisciplinarité, et je trouve que c'est méritant parce que c'est pas si souvent que on met dans la même salle des personnes qui s'inspirent de la psychanalyse et de la psychiatrie et des personnes qui sont des sociologues ou bien qui aussi se réfèrent à des théories psychologiques. Donc ça, je trouve que c'était méritant en soi et fort intéressant, même passionnant. Je pense que, enfin moi je l'ai prouvé comme ça en tout cas, c'est qu'on a ouvert des boîtes noires et que je ne suis pas tout à fait certaine, en tout cas pour ma part, de pouvoir en tirer complètement les conclusions. Ce que je comprends bien, et notamment Christophe, tu l'as dit là à la fin, c'est qu'on n'a évidemment pas les recherches des mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'évidemment la psychanalyse s'intéresse aux ressorts internes et aux processus interne, alors que le sociologue va se dire, bon, la cuisine qui se fait finalement dans l'inconscient, on s'en occupe pas, hein. Et ça, évidemment, ça change beaucoup les choses. Je voulais quand même faire une remarque. Alors, moi, j'ai quand même plusieurs mystères qui se sont plutôt épaissis qu'éclaircis, et notamment la question du genre. Pour moi, il y a deux genres et non pas un genre. Et donc, j'ai bien entendu, alors je vais réfléchir, voilà. Mais c'est pour dire que ça ne s'est pas vraiment éclairé. La question aussi, qui pour moi ne s'est pas éclairée, mais qui s'est plutôt obscurcie, c'est savoir si il faut mettre le sexe avant le genre ou le genre avant le sexe. Et je suis incapable d'y répondre. Mais ce qui me satisfait quand même un peu, c'est de voir que même les psychanalystes ne sont pas d'accord entre eux, je crois. Hein, il y a quand même un débat. Et donc, il faudrait que je creuse. Bon, peut-être que voilà. Bon, c'est aussi. Alors, je trouve très intéressant le fait qu'on ait tous fait un effort de traduction. Et je voudrais remercier vraiment Christophe Dejour, qui se trouve plutôt dans un milieu de sociologue, d'avoir fait cet effort d'essayer de nous expliciter, en tout cas, la genèse du raisonnement, parce que je connaissais bien ses travaux sur le travail, notamment sur le rapport au corps des ouvriers, mais aussi des aviateurs, etc. Et je trouve ça passionnant. Je me suis rendu compte aussi en vous entendant tous les deux que finalement, on travaille beaucoup sur les ouvriers. Et quand même on parle des écrivains ou quand on parle des artistes, Giacometti, etc., c'est quand même un rapport à la matière, c'est quand même un rapport à la création. Voilà. Et l'ouvrier n'a pas toujours ce rapport à la création, mais en tout cas, il se produit. Je comprends très bien, et Marx le dit d'ailleurs, il se produit lui-même en produisant. Et il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment étudié, c'est d'autres métiers qui ne sont pas justement dans le rapport au corps, qui n'utilisent pas leur corps, en tout cas comme ça, eh bien, ce sont, par exemple, je ne sais pas, les cadres, les gestionnaires. Ça serait intéressant, alors, d'étudier davantage comment le corps se positionne dans leur travail et comment ils font avec leur corps, c'est-à-dire quel rapport ils entretiennent. Alors, bien évidemment, la psychanalyse remonte tellement loin sur la question qu'elle peut généraliser ce qu'elle dit à propos des ouvriers, j'imagine, pour d'autres catégories. Mais je pense que les sociologues, eux, auraient vraiment un travail à faire sur cette question-là. Et puis, dernier point, la question donc de, des hommes et des femmes. Christophe, tu as dit à un moment donné, si je ne me trompe pas, que l'intelligence au travail n'était pas genrée et qu'on connaissait par corps, et qu'on connaissait par corps qu'on soit homme ou femme, on va dire, de la même manière, si j'ai bien compris ce que tu disais. Eh bien, ça ne m'apparaît pas tout à fait comme ça, parce que tous les travaux montrent, et je crois qu'on l'a vu ce matin avec la Marine, que justement, dans le travail et l'intelligence du corps, dans le rapport au corps, il y a aussi la relation à l'autre, et que la place du corps des hommes et des femmes dans une société ou dans des relations sociales ne sont pas les mêmes, et que c'est relativement facile d'être un homme dans... physiquement dans une société, je trouve que c'est plus construit et plus difficile pour une femme. Voilà. Et qu'on a des attentes, on a aussi des constructions sociales pour les femmes qui les phagocytent davantage, qui fait davantage pression sur elles. Alors, peut-être on ne peut pas parler de manière aussi générale parce qu'il est évident qu'un homme ouvrier qui se trouve, bon, c'est ce que montrait Bourdieu, il y a là quand même la question des habitudes, c'est qu'il se trouve dans un milieu savant, va être emprunté et il aura un rapport au corps difficile et son corps se situera mal socialement. Mais je pense qu'il faut, quand on pense l'intelligence du corps au travail, c'est aussi l'intelligence, me semble-t-il, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'intelligence des relations, et que dans les relations sociales, le corps des femmes et le corps des hommes ne se positionnent pas du tout de la même manière. Enfin, c'est plus difficile, je trouve, parce qu'il y a une pression sociale et une domination donc plus forte sur les femmes, sur les corps des femmes et sur la manière dont elles peuvent se situer. Voilà. Bon, j'arrête sur cette note.